Marche, écoute.
La vision est pleine.
C'est de tout entendre.
H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins.
Soyez les bienvenus pour ce numéro d'H1000 consacré aujourd'hui à Olivier Ledoux, qui est sculpteur sur bois atypique. Tout d'abord, Olivier, tu as choisi un mode de vie alternatif et pour quelle raison ?
On s'adapte toujours, on vit des vies, on a des situations et souvent c'est la pathologie qui entraîne, la pathologie et l'atavisme qui entraîne le vécu. Hein, les conséquences d'une vie de famille et finissent par te placer ou t'adapter plutôt, c'est plus une histoire d'adaptation et que de choix véritablement. Donc c'est comme la plante qui tombe par hasard avec cette graine-là et qui pousse à cet endroit-là en connexion avec ce vent-là. Donc, moi, je suis un fils de parents très artistiques, très créatifs, très inventifs. Ma pathologie asthmatique m'a toujours mis en externe du groupe social des enfants et des frères et des sœurs. Et puis, ma mère était très créative, mon père était très créatif. Donc, je fais des études de jardinier paysagiste. J'étais passionné par mon sécateur, donc je suis petit à petit devenu sculpteur sur bois. J'ai essayé après l'école de devenir un bon travailleur dans une entreprise, mais j'ai fait 3 entreprises en un an. Donc il s'est avéré que j'étais incapable de fonctionner avec un patron, et surtout avec un patron plus bête que moi. J'ai fait des études très poussées pour devenir jardinier paysagiste, avec tout ce qu'on doit savoir pour le faire bien. Et quand j'ai commencé à vouloir travailler avec ces gens-là, je me suis confronté à l'entreprise et tout ce que ça peut avoir de rabaissant. Et donc, j'ai pris mes outils, j'ai pris mon vélo, j'ai été me promener. Puis j'ai travaillé à droite à gauche avec les gens. Et les gens, surtout quand il s'agit d'un domaine de l'intime, donc du jardin, c'est des gens sensibles qui racontent leur vie, qui enseignent des choses. Et petit à petit, on s'imbibe de ce que les gens vous transmettent et vous devenez... par effet de passage avec que vous devenez vous-même. Et donc, petit à petit, je suis devenu l'artiste que je suis, un peu ours, un peu ouvert. Voilà.
D'où est venue cette passion pour le travail du bois ? Parce que tu aurais pu choisir le maraîchage, par exemple.
Oui, j'aurais pu choisir le maraîchage. C'est comme je dis, j'étais passionné par mon sécateur, j'adorais trancher. J'ai fait gamin, je faisais des sculptures, beaucoup. J'ai fait toutes sortes de petits bâtons, des trucs très qui faisaient 10 cm avec des visages dessus. Je faisais ça de façon assez systématique, sans véritable réflexion. J'en avais besoin. Et donc petit à petit ça s'est fait, et donc j'ai commencé par faire des cannes, des bâtons de cannes. Et donc pendant mon voyage après cet essai d'entreprise, j'ai fait des cannes, et puis des gens m'ont commandé des cannes, et puis après j'ai rencontré un homme qui chaque année m'a adoré mon travail, et chaque année me donnait des conseils en me disant « Bon écoute, voilà, t'as fait la canne, maintenant il serait bien de faire un peu plus grand. » Et d'année en année, à chaque fois il me disait « Fais plus grand ». Et je suis arrivé jusqu'à travailler une sculpture de 12 mètres de haut et de quelques tonnes. Et donc, c'est une façon aussi de se choisir un maître Parfois, on est choisi par le maître. Hein. Et donc, ce monsieur m'a incité à dépasser mes limites. Et donc, voilà.
Si je comprends bien, c'est que c'est un peu comme un parcours initiatique. Il faut être initié par quelqu'un.
Ouais. Oui, et puis c'est vrai que quand on est asthmatique ou quand on a une pathologie récurrente, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si on a une fièvre et c'est fini. On revient à peu près normal. Moi, c'était tous les jours, tout le temps. Ma pathologie, je prenais des médicaments tout le temps, j'ai commencé à être médicamenté depuis la toute petite enfance. J'avais un eczéma excessif qui était vraiment envahissant et donc il a fallu me traiter de façon assez virulente et ça a créé en moi cet être que je suis. Et par le fait d'être constamment en adaptation, constamment en étouffement, je veux dire, un enfant de 5 ou 6 ans, il veut courir, il veut s'exploser, aller dans tous les sens. Ben moi, non, je ne pouvais pas. Donc, il y a une sorte d'auto-mise en place de contemplation, méditation, une méditation active qui se met en place. Sans savoir que tu le fais. Et voilà, ça génère un individu.
Dans le jardin d'Olivier. Quel est le bois que tu aimes le plus sculpter? Est-ce qu'il y a une matière particulière dans...
Je crois que vous connaissez le xylophone. Donc, ouais. Quand on sculpte, on fait de la musique. Il y a une rythmique qui se met en place en fonction de notre rythme cardiaque et puis aussi du vécu de l'instant. Donc, je dirais des bois, des résonateurs, comme des pruniers, des poiriers, des bois fruitiers, mais bien aussi le chêne, évidemment. Et puis, beaucoup, mais vraiment beaucoup, et ça a d'ailleurs développé une pathologie par ce biais-là, avec une poussière très agressive, j'ai énormément travaillé le cèdre. Alors, ce qui est intéressant par ce fait-là, c'est que le cèdre a un taux vibratoire équivalent à la chair humaine. Donc ce problème, c'est vraiment une histoire d'anthropomorphie, c'est-à-dire que je sculptais ce bois comme si je me sculptais moi-même. Et j'ai d'autant plus sculpté ce bois que j'ai travaillé beaucoup sur la résonance, j'ai fait beaucoup de berceaux, et donc j'ai fait des berceaux résonnants. Et donc le bois qui s'apparente à la chair, qui est un berceau résonnant, c'est vraiment un travail sur soi. Totalement, ça a été pratiquement toute ma vie, ce travail sur la résonance et le fait de créer des cocons qui permettent aux gens de s'auto-bercer dans un espace cohérent.
Ton atelier.
Bon, là, c'est du mélèze, donc c'est un résineux. Donc le son ne chante pas autant qu'il pourrait sur un fruitier, sur chaque bois à sa tessiture, quoi.
Ce que j'avais pas capté, c'est s'il y a une odeur aussi, quoi.
Ah bah oui.
Ça, tu vois, je... Bon, à la radio, c'est difficile d'être un odorama, mais effectivement, au-delà du son, lorsque tu travailles le bois, là, ça se dégage cette odeur.
Mais oui. C'est un jardinage, quoi.
Pour toi, sculpteur, se référer au son pour finaliser ta sculpture, c'est très important.
Ben, c'est ma prêtrise, c'est-à-dire que quand j'étais très jeune, je rêvais d'être prêtre, curé, parce que j'adorais être dans l'église. Mais j'adorais pas être dans l'église pour l'histoire du Dieu qui l'habite, mais plus par rapport à l'architecture de l'espace. Et quand je rentrais dans une église, ou comme je rentrais, quand je rentrais sous une voûte de pont, ou dans une grotte résonante, eh bien, je me sentais vivre. C'est-à-dire que on est habité quand on est asthmatique, on est habité d'une double, d'un double ressenti. On a la respiration et on a le chant de la respiration. On est perpétuellement en souffrance et perpétuellement en résurrection. Et donc, soit on devient totalement idiot et on s'enferme dans la souffrance, soit on devient conscient de ce qu'on vit. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur la musicalité de ma pathologie. Donc j'ai travaillé longtemps, j'ai beaucoup joué de la guimbarde. Hein, la guimbarde, vous connaissez, c'est ça, on pousse sur comme une petite lamelle de métal. Et donc, comme tout se passe au niveau de la gorge, donc de l'angoisse, eh bien la guimbarde me calmait et permettait d'apaiser mon souffle. Donc tout est lié à cela. Résonance, sonorité, écoute...
Est-ce qu'il y a un son en particulier que tu apprécies, que ce soit à travers la sculpture ou lorsque tu te promènes dans la forêt?
Le chant du vent, le chant des oiseaux, il n'y a pas, je dirais pas, je ne suis pas musicien, donc je ne peux pas parler en termes de tessiture, mais c'est purement une histoire de ressenti, d'instant donné. De toute façon, le toc-toc-toc que je mets en place quand je sculpte, on sent bien des différences de ton. Mais de là à être précis, je ne sais pas trop quoi vous dire. Le home, bien sûr, le chant du home, O-H-M, donc, un son comme ça qui dure longtemps, et ce sont des moments qu'on peut vivre dans le partage. Mais voilà, je n'ai pas de précision à donner, simplement, c'est un bonheur, c'est dans le bonheur.
Ouais.
Voilà, le son du bonheur, on va dire.
La nature, les oiseaux,
voilà,
tout un univers, en fait, qui te traverse.
Surtout quelque chose qui permet de ne pas être dans l'étouffement ou dans cette sorte de resserrement de l'angoisse, hein, parce qu'être asthmatique, c'est aussi être constamment, c'est vivre constamment dans une forme de gêne. Être sur les starting blocks, mais ne pas pouvoir démarrer sa course. Et donc, apprendre à se lever, tu veux te lever avec passion, c'est pas possible. Il faut te lever en paix. Donc, dès le départ, tu es obligé d'être dans l'initiation pour survivre ou pour ne pas péter un câble. Voilà.
Un sanglier tout bleu.
Voilà, t'as un ange. Là, t'as un fauteuil. un trou, là. C'est doux, c'est tout du cèdre. Tout du bois de cèdre. Beaucoup de matière. Les trésors, il y en a de partout.
Et là, c'était tes outils de précision?
Non, c'est tous les bidouillages.
Ouais, beaucoup de ciseaux à bois.
Oui,
je suppose.
Des tournevis.
Des tournevis.
Toute la ville à
et tu utilises des scies mécaniques, électriques.
Tronçonneuse, bien sûr.
Tronçonneuse, oui.
Tronçonneuse électrique, tronçonneuse thermique.
Ah. Oh, mais c'est fabuleux, fabuleux.
Ça fait rêver.
Ah oui, ah oui.
Oui, mon père m'a donné une scie dont je ne me suis jamais servi. Mais voilà, c'est vrai. Il s'en servira un jour.
Comment te procures-tu les souches des arbres pour élaborer tes œuvres ?
Ils viennent à ma rencontre. Les gens m'appellent, viennent à ma rencontre, ils me voient en train de sculpter et souvent on me dit « Ah tiens, voilà, j'ai fait tomber un arbre, est-ce que tu en voudrais ?» Il y a même des gens que je ne connais pas qui me découvrent parce que j'ai un lien Internet. Et donc, c'est référencé sculpteur, et donc des gens me trouvent, et ils cherchent du bois, ils ont du bois, et on m'appelle beaucoup pour du bois. Ouais.
Et quels sont les thèmes qui te sont chers lorsque tu es devant une souche, quel est le processus qui fait que tu vas...
C'est toujours cette histoire d'être prêt.
Faire une sculpture, quoi.
Ou d'harmonie, c'est que je suis vraiment en lien avec les gens. Donc, j'aime beaucoup être sur la situation du commanditaire, parce que justement je peux donner une réponse à une voix qui attend d'être exprimée par le truchement de la personnalité d'autrui. Et donc j'aime beaucoup répondre. Faire une sculpture pour quelqu'un, je trouve ça intéressant.
C'est personnalisé donc.
C'est personnalisé, c'est faire un costume pour quelqu'un qui a besoin de marcher sa joie. Et donc voilà, le jeu du sculpteur c'est ça aussi. C'est de pouvoir justement faire, on a tous envie de faire une sculpture, on a tous envie d'être créatif, mais on n'a pas forcément les mains associées à l'envie. Donc moi, je suis ces mains-là, qui me met au service de l'envie.
Et quel est ton rapport avec la nature, en général ?
J'adore m'asseoir, là, tu vois, j'ai créé à côté de ma maison une sorte de petite forêt avec des mares, avec une sorte de cohérence, qui me permet d'être juste là. Comme je n'ai pas beaucoup de souffle et que je ne marche pas énormément, je suis plutôt dans un lieu où je peux juste bouger ma chaise, comme le personnage pendant Le Petit Prince. Il veut changer de coucher de soleil, il suffit qu'il se tourne vers la droite ou qu'il bouge sa chaise. Moi, je peux voir plusieurs couchers de soleil par jour, si je veux.
Thank you. Pour une sculpture, à peu près combien d'heures faut-il
ça veut rien dire. C'est vraiment le temps de l'amour. Tu peux pas penser en ces termes parce que bon ben dans mes prix ça va entre 2 000 € et 9 000 €. Moi je fais des prix en fonction du. Je parlais pas de la bourse du client. On parle dans la théorie de la vente maintenant, c'est que il faut faire un prix en association à la capacité d'achat du marchand. Il faut si le gars il est richissime, tu vas pas lui faire un prix qui va rabaisser son ego. Donc il faut faire un prix qui lui correspond. Donc c'est complètement décalé entre ce que tu fabriques et ce que tu vends. Il faut être en capacité de se dépasser. Et même ça fait peur de demander certains prix. C'est-à-dire moi, demander là, on m'a dit, on est venu me voir, on dit mais non, mais pas, tu ne peux pas faire ce genre de prix. Il faut au moins que tu multiplies par 3 ton prix, sinon tu ne te vendras jamais. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui t'achète, il t'achète parce que ça lui ressemble. Pas forcément parce que l'œuvre a une valeur quelconque, mais c'est surtout parce qu'il a ce sentiment de, égotique de se retrouver lui-même par ce qu'il achète.
Mmh, je comprends.
Donc on ne peut pas dire que ça coûte. Oui, parfois ça dure 300 heures, parfois ça dure. Parfois tu as des inspirations fulgurantes. Et au bout de 5, entre 5 et 10 heures, ça y est, c'est fait. Parfois il vaut mieux esquisser et donner. La capacité à celui qui regarde de se projeter lui-même pour l'embellir comme il le voudrait. Si tu donnes trop, eh bien, tu frustres. Si tu donnes pas assez, eh bien, tu ouvres la porte à celui qui regarde de se dire « Ah, mais moi, j'aurais pu rajouter du rouge, là, ou j'aurais pu faire ce trait-là dessus. » Et rien que le fait de se dire qu'on aurait pu le faire, eh bien, voilà, il l'a aimé. Et il s'identifie à l'objet.
Il se projette. Donc.
Il se projette, voilà. Et ça, c'est nécessaire. Il est nécessaire de laisser au commanditaire la probabilité, la possibilité de donner à la sculpture ou à l'œuvre sa possibilité à lui d'un devenir.
Qu'est-ce qui est beau dans un arbre ou dans une souche ?
Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas. C'est identitaire. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est beau. C'est toujours des lois de. Oui, il y a sûrement des arcanes de la beauté, des traits qui vont être. Il y a des choses harmonieuses. Tu peux pas fonctionner comme ça. Je pense qu'il faut être totalement spontané.
Ou peut-être que j'ai mal formulé la question.
Oui.
Est-ce que tu considères que dans la nature elle seule, sans le regard de l'homme, sans l'intervention de l'homme, est une œuvre d'art en soi ?
Bah oui, puisqu'il y a forcément équilibre. C'est comme des muscles qui se rattachent les uns aux autres. Et qui permettent justement d'avoir des prises de risques parfois totalement incroyables. Il y a un platane là, dans le coin de Rébaillou, là où la branche, elle part sur 10-15 mètres avec des torsions, et tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible ? Et après, moi j'ai appris, comme je suis paysagiste, j'ai appris, et en même temps une certaine science du végétal, j'ai appris à comprendre ce qui se passe dans le végétal. Et donc pour moi, c'est comme un squelette. Et je me suis souvent servi dans mes sculptures de cette sorte de squelette intrinsèque, enfin intérieur de l'objet, pour faire des meubles ou pour faire des. Parce que c'est comme des cordes, hein. L'arbre c'est comme une corde, c'est toronné. C'est une sorte de tresse qui en permanence se tourne sur elle-même. Donc je connais bien la fibre du bois. Donc la beauté, l'harmonie, bah, c'est là, c'est la nature, c'est fouillis. C'est anarchique, mais justement, il y a un équilibre et l'artiste, il essaye toujours de faire ce lien et il ne faut pas être trop prétentieux. Voilà, c'est déjà là. Donc, il y a plein de choses où tu vois certains morceaux de bois, oh, tu dis rien, tu regardes, tu prends, tu disposes, tu places dans l'espace comme une géographie théâtrale. Mais il faut savoir se taire aussi, c'est la meilleure façon de parler.
Mais c'est ce qu'on va faire, puisque je propose d'aller faire un petit tour dans ton jardin, si tu le veux bien. Mm-hmm. En tous les cas, merci. Et est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres sur un site internet
Facilement, www Olivier Ledoux avec un X, sculpteur.com.
Voilà. Ouais. Donc 3W Olivier Ledoux, tout attaché.
Oui, sculpteur.
Sculpteur.
Olivier Ledoux, sculpteur, tout attaché, .com.
.com. Ok.
Voilà,
voilà. Donc je vous invite, auditeurs, auditrices,
à. Sur ce site, tu trouveras mon email, mon téléphone, tout ce qu'il faut.
D'accord. Merci, Olivier.
Avec joie. Les gens sont impressionnés par mon travail. J'ai même des. Oui, on le voit. Je veux dire, j'ai beaucoup sculpté, mais tout ce que j'ai créé ici en Ariège depuis 20 ans, bien sûr, il y a eu quelques ventes, mais ce qui a été vendu a été assez impersonnel. J'ai beaucoup d'œuvres qui sont en attente. Je peux remplir un espace de 200 à 300 mètres carrés si je veux. Mais il y a beaucoup d'œuvres qui dorment. Ouais. Un artiste qui achète une œuvre, eh ben, il l'achète parce qu'il va vivre avec. Il va vivre avec 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Après, il y a sûrement des œuvres dont on se débarrasse parce que leur présence est trop lourde à supporter.
Dans le jardin d'Olivier. Ressentir la musique de la nature. Ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.